Alors, pour parler de l'évolution des moyens de communication et leur impact sur l'apprentissage, je reçois Stéphane Hunter d'Esquad Edu. Alors, Stéphane Hunter, il a été tour à tour formateur industriel, enseignant au secondaire, puis consultant en éducation afin de mettre la technologie au service de l'apprentissage. Dans le cadre d'Esquad Edu, il soutient les professionnels de l'éducation dans leur habileté en leadership pédagogique. Bonjour Stéphane.
Bonjour Chantal, c'est un plaisir de te parler cet après-midi.
Oui, mais ma foi, c'est un beau programme, c'est toute une mission de vie.
Ah oui, définitivement. Je pense que d'apporter du support aux gens puis d'amener les gens à prendre conscience de leur réalité puis prendre conscience des pouvoirs d'action qu'ils ont, je pense que c'est la mission qu'on se donne. On a beaucoup de plaisir à faire ça de ces temps-ci. C'est vraiment plaisant ce qui se passe.
Ben, je trouve que c'est merveilleux parce que tu es un petit peu au cœur des générations parce que pour enseigner aux enseignants comment enseigner, il faut d'abord comprendre comment les deux parties, je dirais, réagissent face à la technologie.
Oui, définitivement. Je vais avoir 40 ans bientôt. Puis donc, je suis vraiment dans le milieu de ces deux générations-là, justement. Je trouve ça le fun qu'on peut se tutoyer, n'est-ce pas?
Oui, c'est déjà fait, j'ai pris de l'avance.
Je trouve ça le fun que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, il y a toute cette génération de jeunes ou de plus jeunes qu'on identifie avec les différents types de générations. C'est pas. Et il y a les plus vieux qui vivent avec les répercussions de la technologie actuellement. Puis oui, moi, je suis pas mal dans le milieu de ça. Puis j'ai quand même j'ai du fun à faire le lien entre les plus vieux et les plus jeunes. Puis ça fait partie de mon plaisir au quotidien.
Ben, c'est pas mal le but de notre émission, Stéphane, au fil du temps, d'essayer de créer un pont entre les générations. Et j'étais curieuse, justement, d'entendre ton point de vue sur apprendre à des jeunes ou à des personnes âgées. Comment on s'adapte ou notre façon d'apprendre change au fil du temps, là? Outre les technologies comme telles, c'est sûr qu'il y a eu des gros, gros changements, mais comment notre façon d'apprendre change au fil du temps?
Bien, effectivement, les jeunes, c'est des éponges. Hein? Ils regardent tout ce qui se passe autour d'eux. On dirait que ils vont à l'école, ils font partie d'un système. L'apprentissage, c'est au quotidien, puis ça fait vraiment partie d'un peu de leur raison d'être au début. C'est bizarre à dire, mais ils sont là pour apprendre. Puis quand on évolue, puis on grandit, on vieillit, ben on a des filtres, des croyances qui s'installent. On accumule ces filtres-là, des choses qu'on considère qu'on n'a pas besoin dans la vie. Puis l'apprentissage, pas que ça devienne nécessairement plus difficile, mais de percer ces filtres-là ou ces croyances-là qu'on s'impose, c'est là que ça devient, je pense, de plus en plus difficile. Puis il y a une belle science derrière ça, l'apprentissage des adultes. On parle beaucoup de pédagogie pour les enfants qui apprennent, mais il y a des grands principes d'andragogie, andragogie, qui sont des principes pour enseigner à des personnes qui ont plus d'expérience, des adultes et autres. Puis si je peux citer quelqu'un vous donner une référence, Monsieur Knowles est un monsieur qui fait des recherches par rapport à l'andragogie, puis il a mis différents principes. Puis on pourra peut-être discuter rapidement de ça. Mais enseigner à des enfants et enseigner à des adultes, c'est effectivement différent. Puis je pense que M. Malcolm Knowles, il en parle beaucoup dans ses travaux.
Mais ce serait quoi, par exemple, en andragogie, les points les plus importants lorsqu'on enseigne à des gens plus âgés?
Mais une des choses, l'aspect passif de l'enseignement, donc les adultes, quand ils apprennent, ils doivent vraiment se retrouver dans cet apprentissage-là et voir un but ou une raison d'être à ce qu'ils ont besoin d'apprendre dans leur quotidien très rapidement.
Oui.
Si un adulte qui a des responsabilités, autre, s'il voit rapidement qu'il n'y a pas nécessairement de lien avec sa vie au quotidien, mais je vais dire, l'habitude, c'est de dire, OK, ça, je vais laisser faire, j'en ai pas besoin, tu sais, demain matin, j'en ai pas besoin rapidement.
Il faut que ça soit concret, qu'on fasse un lien vraiment avec notre environnement, ce qu'on a à faire, qu'on puisse appliquer notre apprentissage concrètement.
Exactement, puis il faut que ça soit très rapide dans le temps.
Mm-hmm.
Tu sais, une introduction à un cours ou quelque chose qu'on veut enseigner à des adultes, s'il n'y a pas un sentiment de « j'ai besoin de ça » très, très rapide, en quelques minutes, on va perdre complètement l'intérêt. Donc ça, c'est un des points qui est super important en andragogie.
Il y a quelque chose qui me fascine assez bon, dans l'évolution des technologies, puis c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie qu'on puisse explorer ensemble. C'est un petit peu toute l'évolution du mode synchrone et asynchrone. Puis j'aimerais que tu mm-hmm. puisses peut-être nous expliquer la différence.
En fait, le mode synchrone, c'est essentiellement un peu comme on fait présentement,
exact.
Où est-ce qu'on se parle et qu'on peut se répondre de façon synchronisée.
Mm-hmm.
Quand je dis quelque chose, tu peux réagir tout de suite. Puis le mode asynchrone, dans le fond, c'est un apprentissage où c'est de l'information qui, un peu comme un cours en ligne qu'on va suivre, qui est quelqu'un est préenregistré, où
mm-hmm.
qu'on peut écouter à notre rythme, à notre façon, puis pouvoir reculer dans le temps, réécouter au besoin. Donc, les deux modes d'apprentissage, je pense, surtout aujourd'hui, sont super importants. C'est sûr que le synchrone demande des fois plus d'énergie, demande mm-hmm. plus de d'aptitude à gérer, par exemple, un enseignant qui veut gérer une classe en ligne, bien, ça demande certaines capacités de gestion de classe qui sont vraiment différentes que quand on est en personne. Mais définitivement, les deux approches, je pense, sont super importantes.
Et quel parallèle on pourrait faire, par exemple, chez les gens plus âgés? Moi, je me suis amusée à faire un parallèle où je me disais, chez les gens plus âgés, le synchrone serait le téléphone et l'asynchrone, la lettre qu'on envoie par la poste.
Oui, ouais, c'est intéressant. Ce qui arrive aujourd'hui, les jeunes sont très, très habitués de communiquer en asynchrone. Qu'on
ouais,
pense
c'est
aux
ça.
Textos, qu'on pense aux messages sur les réseaux sociaux. Oui, ça va vite. Oui, les jeunes s'attendent à ce que leurs amis ou les gens avec qui ils conversent répondent rapidement.
Mm-hmm.
Par contre, tout le monde sait qu'on n'est pas toujours en train de répondre à une personne. Puis des fois, il peut même avoir plusieurs conversations simultanées. Si je pense aux textos ou
oui.
au Messenger ou d'autres sur WhatsApp ou peu importe l'application, mais il peut avoir plein de conversations simultanées qui se passent. Les jeunes sont capables de gérer ça de main de maître. Puis nous, en tout cas, les personnes plus vieilles, incluant moi, des fois, on a plus de difficultés avec ça. C'est moins notre réalité, c'est moins dans la réalité dans laquelle on a grandi. Donc, je pense pas qu'il y a rien de mal avec une ou l'autre des réalités. C'est juste deux réalités complètement différentes.
Bien, je me suis aperçue, justement, en parlant à des gens plus âgés, que ce code-là n'était pas nécessairement compris, par exemple, pour le chat ou pour le texto, que c'est pas parce que j'ai texté à ce moment-là que ça veut dire que je suis disponible maintenant. Alors,
ouais.
Chez les plus jeunes, on va dire, bon, j'ai déposé ça, puis la personne va me répondre. Mais chez les plus âgés, ça m'est arrivé de dire, bien, tu m'as écrit, et là, tout à coup, tu es disparu. Comme s'il y avait une impression qu'on était dans le synchrone automatiquement, là.
Oui, puis je vous raconte une anecdote mm-hmm. rapidement. Moi, je fais de la photo, de la vidéo, puis
oui.
plein de choses techniques dans mon arc, disons, pour les outils que j'utilise au quotidien. Mais à un moment donné, mon oncle m'a envoyé un texto pour me demander de l'aide sur quelque chose, puis j'y ai pas répondu avant le lendemain.
Mm-hmm.
Il était insulté,
ouais.
Je lui ai pas répondu, puis il m'a envoyé un long texto pour me dire quand on est ensemble, je compte pour toi, puis là, c'est comme si je compte pas pour toi, puis tu me réponds pas, c'est-tu parce que... Tu sais, là, il était vraiment...
Mm-hmm.
Sa perception du fait que je lui répondais pas de façon instantanée était très négative. Puis il est venu chez moi le lendemain ou le surlendemain, puis j'ai pris le temps de lui expliquer, puis j'ai montré mon fil
oui.
Des messages que je reçois dans une journée. J'ai montré... la quantité de notifications que je peux recevoir dans une journée.
Mm-hmm.
Puis, je dis, regarde, hier, j'ai reçu une centaine de messages différents, de différentes personnes. Toi, tu faisais partie de ces 100-là. Puis, oui, j'ai passé par-dessus ton message, puis je t'ai répondu le lendemain. C'est pas personnel, c'est pas, je veux pas t'insulter, oui,
mm-hmm.
mais il a fallu vraiment que je passe par cette, cet apprentissage-là. Il faut que je lui explique vraiment clairement ça veut dire quoi texter en 2020 ou 2021. Puis, effectivement, on ne répondra pas toujours du premier coup ou très rapidement. Donc, oui, c'est une conception que les gens plus âgés ont, que si je te texte, ben réponds-moi tout de suite.
Oui, c'est ça. Stéphane, on va continuer d'explorer l'évolution des technologies après, justement, une pièce musicale qui s'appelle « Dernier texto » de Kikessa. Stéphane, as-tu entendu cette phrase-là? Il a écrit « Vu dessous, mon dernier texto ». Fais-moi juste un signe, je m'en fous, même un emoji.
Oui, non, c'est très à propos. On va dire ça comme ça. Mais effectivement, puis je trouve que si on parle d'emoji, mm-hmm. Nous, les adultes plus âgés, des fois, on regarde ça et on dit « Moses, ça n'a pas de bon sens ». Mais tu sais, quand on lit un texto ou on lit un message, mm-hmm. ça laisse tellement place à de l'interprétation. Ouais. Puis des fois, un message peut sonner comme si la personne est choquée, puis au contraire, est super heureuse, et l'inverse, c'est aussi vrai. Donc, des fois, les emojis ou d'ajouter ces petites icônes-là dans les textos peut définitivement, varier la discussion ou amener cet oui. aspect-là plus émotif à un texto. Puis,
mais il reste qu'on s'entend que lorsqu'on a une conversation délicate, où il y a des opinions, moi, je crois que de déclencher soit une conférence virtuelle ou le téléphone, ça demeure la meilleure manière de ne pas s'embourber.
Oui. Qu'on dit souvent, quand on est entre nous, mm-hmm. ici, chez Esquad et Du, oui. Des fois, on se regarde et on dit, OK, ça, c'est un appel.
Oui.
Ou ça, c'est un courriel. Ou ça, c'est un texto. Tu sais, il y a comme une espèce de gradation oui. dans la complexité des communications que, non, un texto ou même un courriel, c'est pas suffisant. Ça prend l'appel ou ça prend la vidéoconférence pour dire, il y a du non-verbal, il y a l'aspect de des émotions qui passent au travers de l'intonation de la voix et autres. Donc, il faut choisir notre moyen de communication en fonction de nos intentions. Puis ça, c'est un défi oui. au quotidien qu'on a tous, puis que les jeunes doivent apprendre. C'est pas parce qu'ils sont nés avec la technologie mm-hmm. qu'ils connaissent ces balises-là ou ces moyens-là ou qu'ils voient vraiment la différence entre les différents moyens de communication. Donc, on a un gros travail en tant qu'adulte de modèle numéro un, mais aussi d'enseignant, même si on n'a pas le titre d'enseignant, d'enseigner à nos jeunes comment communiquer. Il y en a plein de manières, mais il faut leur enseigner comment mieux communiquer.
Puis enfin, un défi aussi, Stéphane, qui me fascine, c'est que comme enseignant, justement, si on veut être un bon pédagogue, on doit comprendre chaque personne, chaque étudiant. Mais mm-hmm. moi, qui ne suis pas un professeur, je me rends compte que chaque relation que j'ai a son propre code communicationnel. Il y en a qui oui. préfèrent le texto, d'autres c'est le messenger, certains répondent tout de suite, il y en a d'autres c'est le lendemain, et, oui. et on est invité justement pour pas avoir ce type de frustration-là à comprendre le code de chacun, ce qui fait que chez certains je vais m'inquiéter si la personne ne m'a pas répondu, tandis que l'autre je sais que c'est normal, on dirait que chacun a sa signature numérique, ça se peut?
Ah, tellement! Mm-hmm. T'as tellement raison quand tu dis ça. Puis, je pense que, si je peux résumer ça, une des choses que je dis souvent dans les conférences que je fais, c'est la communication, ça part de l'autre. Mm. Lorsqu'on veut communiquer avec quelqu'un, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de l'autre personne.
Oui, tout à fait.
Puis, on doit communiquer, surtout avec les jeunes, on doit communiquer où ils sont. Mm-hmm. Si j'envoie un messenger à un jeune qui ne consulte pas ses messages dans Messenger, ben
ça passe à côté.
Ça passe à côté. Tu sais, je donne souvent l'exemple de mon collègue Marius qui utilisait beaucoup de Snapchat avec sa fille mm-hmm. l'année passée, puis il y avait les fameux streaks qu'il utilisait avec sa fille, puis à un moment donné, il faisait une drôle de photo, il prenait un selfie avec une drôle de face, puis j'ai dit « qu'est-ce que tu fais là? » mm-hmm. ben, j'envoie un streak à ma fille, puis jamais Marius aurait eu un compte Snapchat ou aurait utilisé Snapchat. Mais parce que mm-hmm. sa fille est là, puis c'est là qu'il veut communiquer avec ouais. sa fille, ben, il s'est créé un compte, puis il communique avec elle. Donc, ça part de l'autre, on rejoint l'autre où il est, puis c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on peut aller chercher nos jeunes en communiquant avec eux comme ça.
Quelque chose qui m'a fasciné, mon fils Vincent m'a dit dernièrement que certains de ses amis pour quelque chose d'aussi simple que d'appeler pour commander une pizza, la relation au téléphone pouvait être anxiogène. Et là, moi, c'est, j'ai fait, voyons, parle-nous de ça, explique-nous.
Tout est une question d'expérience, je crois. Mm-hmm. Les jeunes n'ont plus l'expérience de jaser au téléphone.
Mm-hmm.
Alors, même, c'est drôle parce que ma femme a 42 ans, puis elle n'aime pas ça parler au téléphone. Elle aime mieux les textos, puis elle aime mieux commander en ligne. Puis il y a quand même un niveau de vulnérabilité, aussi bizarre que ça peut sembler, je crois, un niveau de vulnérabilité quand on parle en direct à quelqu'un. On se parle présentement en direct.
Mm-hmm.
Je sais à peu près où on veut aller avec la conversation. Tu me poses des questions, je dois te répondre. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, il n'y a pas beaucoup de temps pour penser à ce qu'on veut dire. Mais ça, pour certaines personnes, surtout avec le manque de pratique, je crois, c'est bizarre, mais le manque de pratique que les jeunes ont à faire ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça peut être plus anxiogène pour eux de simplement commander une pizza.
Mais en même temps, je trouve qu'il y a une responsabilisation dans la conférence virtuelle ou le téléphone où on se sent responsable de la communication qu'on fait, alors que sur les réseaux sociaux, les gens déposent toutes sortes d'avis et je trouve qu'on prend moins soin justement de la relation. On n'est pas en relation, on dépose des lettres.
Oui, c'est vraiment c'est le désavantage de l'asynchrone.
Mm-hmm.
Où est-ce que des fois une réaction ou tu sais quand on parle à quelqu'un puis il y a une idée qui nous vient puis on intervient puis ça change la discussion, ça nous amène ailleurs, ben ça en asynchrone ou sur les réseaux sociaux ou autres, ben il y a pas ça, il y a pas cet aspect instantané malgré tu sais la messagerie instantanée et tout, mais c'est, je pense que les jeunes ont besoin d'apprendre à communiquer de cette façon-là, mais il y a pas il semble pas avoir beaucoup d'intérêt non plus pour communiquer de cette façon-là. Donc, il y a comme un mélange de faut générer l'intérêt ou les amener à s'intéresser à ça le fait qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise avec ça parce que dans la vraie vie, ben, il faut parler à du monde. Il faut être capable de réagir sur nous rapidement. Il faut être capable d'argumenter des fois, tu sais, comme l'art d'argumenter, pas pour s'obstiner, mais juste de discuter.
Absolument.
C'est tout un défi pour nos jeunes.
Hey Stéphane, c'était une conversation fort intéressante. On a déjà terminé. On pourra se reparler si tu veux bien.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. C'était Stéphane Hunter d'Esquad et du...